veuillez regagner vos places, les midis reprennent. Tout à l'heure, je recevrai la comédienne Valérie Bonneton et le scénariste Frédéric Rivune. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Demain sort sur Arte TV un documentaire autour de l'histoire de la musique d'ascenseur, avec pour point de départ la Musac, une musique qui n'est a priori pas faite pour être écoutée, mais seulement pour être entendue. Alors, quelles sont les origines de cette musique? Dans quel contexte s'est-elle déployée et quels sont ses enjeux politiques? C'est notre dossier du Point Culture du jour. David Unger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur du documentaire Une histoire de la musique d'ascenseur, de la Musac au streaming. Alors la première chose qu'il faudrait sans doute expliquer, c'est ce mot Musac. Que désigne-t-il exactement?
Musac, en fait, c'était le nom d'une entreprise américaine qui diffusait de la musique d'abord dans les appartements, et puis ensuite dans les ascenseurs, et puis ensuite surtout dans les usines et dans les bureaux. C'est une entreprise qui a été créée dans les années 30 par un officier américain à la retraite qui s'appelait George Owen Squire. Et cette musique, qui était une musique extrêmement légère, extrêmement douce, faite essentiellement de reprises, on l'a désignée au fil du temps par le nom de l'entreprise qui la produisait. C'est-à-dire qu'ensuite, on s'est mis ce qu'on a appelé la musique d'ascenseur. Les Américains, eux, disent Musac. Un peu comme nous, on dit Kleenex pour parler des mouchoirs ou frigidaire pour parler d'un frigidaire. C'est-à-dire que c'est un néologisme. C'est un nom propre, le nom d'une entreprise qui est devenu un nom commun.
Et pourquoi Musac? Je crois que c'est une histoire de contraction.
Ah oui, c'est effectivement, c'est Musac. C'est donc une idée de George Owen Squire qui a fait la contraction entre le terme musique et le terme Kodak. Musique, Kodak, ça fait Musac, notamment parce qu'il aimait l'idée du déclic de l'appareil Kodak, l'idée étant que cette musique était censée enclencher chez l'auditeur un certain déclic.
Alors, il y a plusieurs phases dans l'histoire de cette musique fonctionnelle, cette musique d'ascenseur, et vous faites débuter donc votre documentaire par les ascenseurs, dont vous nous avez déjà un tout petit peu parlé, et l'idée que cette musique permettait de faire oublier aux utilisateurs la peur d'un éventuel arrêt ou d'une chute. Est-ce que cette musique a toujours eu pour but premier, finalement, de faire oublier la peur?
Alors non, je pense pas. Disons qu'effectivement, au départ, dans les ascenseurs, c'était pour rassurer les passagers. Le premier ascenseur dans lequel on a mis de la musique, c'est l'ascenseur de l'Empire State Building, qui grimpait quand même jusqu'au 82e étage à partir de 1932. Donc on peut comprendre que les usagers à l'époque avaient un peu peur de grimper jusqu'au 82e étage. C'est la raison pour laquelle, pour les rassurer, on a mis de la musique. C'est la raison pour laquelle on a inventé aussi le personnage du groom. Le personnage du groom qui ne servait pas à grand-chose, si ce n'était à rassurer les passagers. Il y avait comme ça comme une espèce de référent technicien dans l'ascenseur avec eux. Mais ensuite, très vite, en fait, cette musique, elle a été diffusée dans les usines et dans les bureaux, essentiellement pour accroître la productivité des ouvriers, des employés. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, moi je trouve, c'est qu'on a l'impression que c'est une musique légère, une musique insipide, qui justement est censée apaiser ou qui est censée rassurer. Or, en fait, il y avait à l'origine du projet quelque chose d'un peu plus cynique, qui consistait à dire, notamment par exemple pour les ouvriers à la chaîne, on s'était rendu compte dans les usines que au fur et à mesure de la journée, les ouvriers étaient de moins en moins concentrés. Et donc on a eu comme dans l'idée de diffuser de temps à autre cette petite musique pour les aider à se concentrer sur ce geste répétitif qui était le leur, et de fait pour éviter que la chaîne prenne du retard ou pour éviter des accidents du travail.
Dans votre documentaire, plusieurs intervenants reviennent justement sur l'idée que la Musac est une idéologie, qu'elle est donc en soi politique. On entend même parler d'impérialisme sonore. En quoi cette Musac raconte-t-elle la société dans laquelle elle a été produite pour vous?
En fait, c'est certainement la musique qui est la plus emblématique de l'histoire du capitalisme, bien plus que toutes les musiques qui pouvaient exister à l'époque ou des musiques qui ont pu suivre, dans le sens où c'est vraiment la musique qui a d'abord accompagné le travail à des fins de productivisme et ensuite à des fins de consumérisme. C'est-à-dire que on s'est rendu compte... Alors, quand je dis on s'est rendu compte, c'est assez drôle parce qu'il y a des études soi-disant scientifiques qui ont été faites à l'époque, par exemple, pour démontrer que l'utilisation de la musique permettait d'accroître la production d'une usine de 7%, de 10%, de 15%. Ces études-là n'avaient rien de scientifique. Elles étaient souvent commandées elles-mêmes par Musac pour pouvoir convaincre leur potentielle clientèle de s'abonner à leur dispositif. Néanmoins, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'à partir des années 50, en fait, la musaque a envahi l'Occident, en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait progressivement de la musaque partout, dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les halls d'hôtels, dans les bars d'hôtels. Et c'est une chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, un peu plus tard, la musaque est venue inonder le territoire européen, pareil, où dans n'importe quel supermarché ou n'importe quelle boutique de prêt-à-porter, y compris dans les restaurants, dans les aéroports, même dans les avions, on diffusait cette musique-là. Et cette musique-là, effectivement, elle était faite ensuite à la fois pour alléger le quotidien, mais aussi notamment pour rassurer les gens qui s'apprêtaient à consommer, à débourser de l'argent. C'est une façon de leur dire, si vous dépensez de l'argent, c'est pas si grave.
Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette musique, et donc dans l'histoire de cette musique que vous nous exposez, c'est qu'elle est a priori, ça on l'a un peu compris, a priori anodine, sans enjeu, faite pour être entendue, sans être écoutée. Alors, elle était quand même composée par des personnes. Alors, elle était composée par qui et comment ?
Alors ça, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film, c'est qu'effectivement, c'est une musique conçue pour ne pas être écoutée. C'est-à-dire qu'il y a là un paroxysme typique de notre modernité, si je puis dire. L'idée étant que pour ne pas être écoutée, justement, il fallait qu'elle soit à la fois la plus légère possible, mais qu'en même temps, on puisse la reconnaître. C'est-à-dire que la musaque, ce sont essentiellement des reprises. Ce sont des reprises de standards, ce sont des reprises de chansons connues, de mélodies connues. Donc ça évoque un souvenir, ça évoque une nostalgie, ou ça évoque pas qu'une nostalgie, d'ailleurs ça évoque aussi dans la tête des travailleurs ou des consommateurs, c'est censé évoquer quelque chose de plaisant. Et ensuite, effectivement, ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est qu'en tout cas, donc elle n'était pas composée, mais elle était arrangée par des arrangeurs ou des arrangeuses, d'ailleurs, qui cherchaient à faire en sorte que la musique soit la plus homogène possible, qu'elle soit la plus douce possible, qu'elle soit la plus linéaire possible. Il y avait jamais de rupture de rythme, par exemple. Il y avait jamais de grands éclats d'instruments à un moment. Elle était pensée de cette façon-là. Et surtout, elle était enregistrée de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y avait des musiciens de studio qui venaient en studio pour enregistrer cette musique, pour enregistrer cette musaque, qui travaillait sur partition avec un chef d'orchestre et qui donnait le meilleur d'eux-mêmes comme musicien pour faire en sorte que cette musique-là soit la plus douce possible. Et c'est ça qui est drôle, c'est de se dire qu'effectivement, une musique conçue pour ne pas être écoutée, elle était quand même arrangée et elle était quand même réellement enregistrée.
Merci beaucoup, David Unger.
Eh bien, je vous en prie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, la justice privilégie la liberté d'expression.
Oui, dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a annulé la condamnation du militant antiraciste guadeloupéen Franco Lolia pour avoir dégradé la statue de Jean-Baptiste Colbert devant l'Assemblée nationale à Paris en 2020 et estime qu'il a agi au nom d'un, je cite, « débat d'intérêt général ». Le militant de la brigade anti-négrophobie avait tagué « négrophobie d'État » en rouge sur le socle et jeté de la peinture rouge sur la statue du ministre de Louis XIV, à l'initiative du Code noir qui régissait l'esclavage dans les colonies françaises à partir de 1685. L'affaire devra être rejugée et pourrait se terminer par l'acquittement de l'activiste.
Le musée d'Orsay accueille le déjeuner des canotiers, tableau emblématique du peintre Auguste Renoir.
Oui, rarement exposé en France, le chef-d'œuvre réalisé entre 1880 et 1881 a été prêté par un collectionneur états-unien dans le cadre d'une double exposition consacrée au maître de l'impressionnisme qui débutera le 17 mars. Ce grand format de 130 cm par 175 représente une fin de déjeuner estivale à la Maison Fournaise à Chatou, sur les bords de Seine, un des lieux fétiches d'Auguste Renoir. Acheté par le marchand Paul Durand-Ruel, le tableau a été acquis dans les années 1920 par le collectionneur Duncan Phillips et conservé dans sa Phillips Collection, musée d'art moderne réputé à Washington. Le déjeuner des canotiers n'a pas été montré à Paris depuis 20 ans lors d'une exposition au musée du Luxembourg.
Et pour finir, Sophie Catherine, aujourd'hui, le quart d'heure de lecture nationale invite tout le monde à prendre donc 15 minutes pour lire.
Voilà, lancée en 2018, l'initiative du Centre National du Livre encourage la lecture pour tous et toutes, partout et à tout moment, en proposant plus de 800 événements autour de la lecture dans des librairies, des entreprises, des associations, des EHPAD et bien d'autres. Cette cinquième édition est parrainée par 9 ambassadeurs et ambassadrices, dont les autrices Leïla Slimani, Aurélie Valogne et Agnès Ledigue, ou encore le dessinateur de bande dessinée Julien Nil.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.